Pendant l'éternité. Nous servirons notre roi là-haut.
Il n'y aura
pas de oisifs. De gens qui vivent pour eux-mêmes.
Oisifs.
Ni paresseux.
Non.
Tout le monde sera actif.
Amen.
Dans la présence du roi. Et nous le servirons nuit et jour.
Amen.
Alors, commençons déjà sur cette terre à le servir.
Dès ici-bas.
Et le Seigneur m'a demandé de vous dire ce qu'il attend de vous ce matin, à partir de ce matin. C'est une plus grande consécration. Des vies davantage livrées à son service. Parce que il faut nous préparer à entrer dans sa gloire. Et pour entrer dans sa gloire, notre pèlerinage sur la terre sert à nous préparer.
Oui, amen.
Et si nous sommes préoccupés uniquement des biens de ce monde, des affaires de ce monde, et que nous ne prenons pas le temps de nous préparer pour notre éternité, là-haut, qu'est-ce que 80 années dans, sur cette terre face à l'éternité qui ne finira jamais. C'est une poussière microscopique. Et je vais reprendre cette vision que le Seigneur m'avait donnée, que j'ai déjà dite dimanche dernier, mais le Seigneur ce matin a ajouté quelque chose à cette vision-là qu'il complète chaque fois un peu plus. Chacun de nous, nous sommes un joyau à la couronne du Seigneur. Et ce joyau-là que nous sommes, notre vie, le Seigneur veut le polir afin que nous brillons davantage dans sa gloire quand nous serons là-haut, dans sa couronne. Nous brillerons davantage, j'ai dit la dernière fois, je le répète encore, dans la mesure où nous nous consacrons davantage au Seigneur, dans la mesure où nous lui donnons une plus grande disponibilité pour le laisser nous transformer à son image, pour le laisser entrer dans son plan. Et le Seigneur a un service pour chacun de nous. Personne ne peut dire « Le Seigneur ne veut pas se servir de moi. » Mais ce qu'il attend, par contre, c'est que nous lui donnions notre vie, notre temps. Et nous brillerons davantage aussi dans la mesure où nous aurons servi le Seigneur sur cette terre. Forcément qu'il y aura un éclat supplémentaire pour ceux qui auront servi le Seigneur, de différentes manières. Ce n'est pas seulement la prédication. Ce n'est pas seulement les dons spirituels. C'est tout service que nous faisons pour le Seigneur. Et le Seigneur m'a souligné donc cela ce matin, c'est que en nous mettant à son service, en le servant sur cette terre, nous serons un joyau qui brillera davantage dans sa gloire,
Amen.
À sa couronne. Et 1 Corinthiens 3, 8, dans 1 Corinthiens 3, 8, il est dit que chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et nous devons veiller avec quels matériaux nous construisons notre service. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il est dit à la fin de ce passage-là, vous lirez vous-même, il recevra une récompense. Et puis après, je prendrai une autre image que le Seigneur m'a donnée, qui représente ce qu'il veut faire, comment il veut nous utiliser. À un moment donné, j'ai comme vu le Seigneur qui était dans un atelier. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, cela, mais c'est tellement frappant. Le Seigneur dans son atelier, le maître des instruments que nous sommes et qu'il veut utiliser. Nous sommes les instruments du Seigneur et il veut nous forger à son image, afin que nous devenions des disciples accomplis et qu'il puisse accomplir son plan au travers de notre vie. Et voici ce qui se passait dans son atelier. C'est merveilleux parce qu'il a toutes sortes d'instruments, le Seigneur. Et nos différences, nos particularités ne l'arrêtent pas. Dans un coin, le Seigneur façonnait de nouveaux instruments. Donc il est toujours à l'œuvre, en train de chercher un nouvel instrument qu'il pourra utiliser. Sommes-nous disponibles? Dans un autre coin de l'atelier, il aiguisait ses outils, ses instruments, pour mieux s'en servir. Alors quand il nous forge au travers de l'épreuve, eh bien, laissons-nous forger par lui, laissons-nous le faire son travail. C'est le maître. Il utilise ses instruments, il les rend plus efficaces pour que nous puissions mieux le servir. Dans un troisième coin, il réparait les instruments défectueux. J'ai trouvé ça beau. Donc, même si nous sommes quelque part un peu défectueux, Seigneur, perd pas patience. Il est patient plus que nous tous. Il sait réparer les instruments défectueux, là où il y a une défection. Alors, quand le Seigneur nous montre quelque chose dans notre vie qui serait une défection et qui nous empêcherait de servir le Seigneur, là aussi, disons-lui, oui Seigneur, je collabore. Je te permets de me transformer, de mettre les choses en place, de remettre les choses en place. Dans un autre coin, il améliorait certains instruments. C'est comme pour... il mettait dans un autre coin, le rajoutant des pièces. Vous vous rendez compte? Un instrument, il trouve qu'il lui manque une petite roue par là, une petite dent par là. Eh bien, il va savoir ajouter. Et combien nous l'avons vu dans notre propre vie, que le Seigneur, quand il a commencé à nous utiliser, eh bien nous avions telle et telle et telle possibilité de le servir. Mais quand nous étions fidèles dans le service, dans tous ces services-là qu'il nous demandait, il en ajoutait un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et ça devient infini. Comme dit Samuel souvent dans ses messages, avec 5 pains, et 2 poissons. Le Seigneur peut nourrir une multitude, peut faire des choses grandes, et il peut multiplier à l'infini ce que vous avez, ou ce que vous n'avez pas, il peut ajouter aussi. Donc c'est très beau. Et dans un autre coin, ça aussi c'est beau, de son atelier, le Seigneur mettait de l'huile dans les rouages aux instruments qui grinçaient, afin qu'ils ne dérangent plus. Quand il travaille avec les autres.
Ça dérange. Quand ça
Alors, quand, oui, c'est vrai. Quand il travaille avec eux, dans le but que leur travail se fasse mieux sans bruit. Si c'est beau ça. Sans bruit et plus facilement. Dans un dernier coin de son atelier, le Seigneur choisissait des instruments qui lui avaient déjà été utiles et qu'il qualifiait maintenant pour un nouveau travail. Parce qu'il estimait que, bon, maintenant, ce travail-là, tu as assez bien fait, tu vas aller là-bas maintenant, et tu vas faire ça. Le Seigneur attend de nous tous ses instruments, que nous lui demandions la force et la sagesse pour accomplir l'œuvre, la tâche qu'il nous a confiée. Puisse chacun de nous servir le Seigneur fidèlement, veillant constamment de peur d'échouer et de décevoir le maître. Le manque de disponibilité, c'est la seule chose qui l'arrête. Parce qu'il ne vous forcera pas. Le disciple du Seigneur doit être l'ouvrier le plus respectueux et le plus loyal sur cette terre. Puissions-nous accomplir notre tâche avec enthousiasme, joyeusement et avec l'espérance de recevoir un jour, non l'approbation des hommes, mais celle du Seigneur.
Amen.
Oh, oui. Oh, nous voici pour te servir,
merci,
oh roi.
Seigneur,
je reconsacre ma vie encore.
Amen.
Une fois de plus.
Oui, nous voici.
À ta volonté.
Amen.
À ton service.
Amen.
Sois honoré plus dans ma vie.
Amen.
Utilise-moi davantage, Seigneur. Change ce qu'il y a à changer.
Wow.
Mets de l'huile dans les rouages. Fais tout ce que tu as besoin de faire dans l'instrument que je représente pour toi. Je veux être utile à ton service. Puisse chacun de nous faire aussi cette prière dans son
sens.
Devant ce maître,
merci,
si patient,
Seigneur,
si merveilleux, qui sait transformer les vies que nous sommes.
Merveilleux.
Et que nous puissions être utiles à son service et nous préparer à être ce joyau qui brille davantage à sa couronne. Amen.
Amen. Amen. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus.
Alléluia, Seigneur.
Oui, nous voulons répondre présent à ton appel. Présent. Me voici, Maître. Parle-moi. Tu nous as parlé, tu nous parles encore. Nous voici pour faire ta volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Nous voulons ainsi nous soumettre à toi et entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Nous voulons y entrer, Seigneur, et ne pas tourner en rond dans notre vie spirituelle.
Oh, c'est
nous voulons cesser de tourner
c'est
en rond.
C'est ça. Amen.
Car
Amen.
Un jour, Seigneur, nous ne voulons pas nous présenter honteux
devant toi.
Mais que tu puisses nous dire, cela va bien, bon et
fidèle.
Fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai
beaucoup.
Beaucoup.
Seigneur.
Puisses-tu nous dire à tous que nous avons été bons et fidèles, Seigneur.
Oui, Seigneur.
Pour cela encore, parle-nous. Tu nous as parlé, nous voulons te dire oui, Seigneur. Tu veux encore nous enseigner certaines choses.
Oh, oui, Seigneur.
Et quand ta lumière continue de nous éclairer dans ce que nous avons encore besoin d'être éclairés.
Merci, Jésus.
Ton Esprit Saint nous enseigne et nous aide à comprendre ce que nous n'avons encore pas compris et obéir dans ce que nous n'avons pas encore obéi.
Aussi.
Aide-nous, Seigneur. Prends nos vies et ma vie pour ta gloire.
Amen, amen.
Ouvre-nous les Écritures encore et enseigne-nous tes voies. Amen.
Amen, amen.
Nous restons encore dans le recueillement et c'est dans cet esprit d'appel du Seigneur à le servir. Et j'avais justement préparé un petit message tout simple. Comment travailler à l'œuvre de Dieu?
Et moi je ne savais rien, je ne savais pas ce qu'il avait préparé.
Et c'est la première fois que j'apporte ce message parce que nous allons appuyer tout spécialement l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu.
Ah oui, moi j'avais ça aussi, c'est la même pensée.
Comment travailler à l'œuvre de Dieu. Et alors, pour savoir cela, ce n'est pas moi qui peux vous le dire. Ce que je dis n'a pas plus de valeur que ce que vous dites.
C'est vrai.
Et nous allons voir dans la Bible certains passages où il est parlé de l'œuvre de Dieu, tout simplement.
Voilà.
Et nous allons essayer de découvrir autour de ce texte quelle est la pensée du Seigneur concernant l'œuvre de Dieu et comment, dans quelles conditions il est parlé de l'œuvre de Dieu, dans quelles circonstances, dans quel esprit il est parlé de l'œuvre de Dieu. Alors, comment travailler à l'œuvre de Dieu? Le premier passage qui me semble bien nécessaire de dire, c'est dans Jean 6, 29. Jean 6, 29, ce sont les paroles mêmes de Jésus. On peut lire verset 28, toujours, le contexte. Les pharisiens, tout cela était là, au verset 28, ils lui dirent... Déjà 28, on peut lire, ou bien 27 déjà, allons-y, on va monter un petit peu. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu,
de Dieu?
Et le verset 29, Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, voyez-vous, l'expression ici, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà, une première pensée très importante, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Mm-hmm. Donc, en Jésus. Et l'apôtre Paul lui-même le disait, nous prêchons Christ crucifié. Et ressuscité, mm-hmm. bien sûr. Mais le message central de l'apôtre, 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1,23, nous prêchons Christ crucifié. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Dans la croix, il y a la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc, si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, il faut commencer à prêcher le bon message. Voilà, c'est le point qui va avec ce premier verset. Comment travailler l'œuvre de Dieu ? En prêchant le bon message. Si vous ne prêchez pas le bon message, vous n'aurez pas des bons résultats et vous ne ferez pas l'œuvre de Dieu.
C'est ça, si.
Et en prêchant la croix, on prêche naturellement que l'homme est perdu parce que Christ est mort pour nos péchés. Dans la croix, il y a toujours cette pensée de l'homme qui est en rébellion contre Dieu, de l'homme qui a péché contre Dieu, de l'homme qui a déshonoré Dieu. Mais aujourd'hui, on l'oublie de plus en plus cela. On dit surtout que Dieu aime l'homme, que Dieu est amour, que Dieu l'aime, et qu'il veut le bénir, voyez-vous, et qu'il veut lui faire du bien, il veut pourvoir à ses besoins, regardez, et on tourne tout autour, mais on ne lui dit pas ce qu'il a besoin d'entendre, qu'il est pécheur, qu'il est rebelle, ah ça on ne le dit pas, on ne le dit pas pourquoi, parce qu'il partirait, c'est le monsieur ou la madame, il se lèverait en disant au revoir, vous me condamnez, vous me culpabilisez, il est temps de culpabiliser les gens.
Bien sûr, pendant qu'il est temps. Un jour ce sera trop tard.
Parce que Dieu, quand il culpabilise, il amène toujours le remède.
C'est ça.
Il ne condamne pas sans apporter le remède.
Amen.
Comment travailler à l'œuvre de Dieu? En prêchant le bon message, c'est-à-dire Christ crucifié. Écoutez-moi bien, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, vous n'entendez pratiquement plus prêcher de la croix. De la croix. Et dans le sens que, justement, Christ est mort pour nous pécher, que l'homme est pécheur, rebelle, souillé, impur. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, est-ce que vous l'entendez beaucoup? On n'ose pas le dire aux gens. Comment? Vous me prenez pour un pécheur? Vous me jugez? Vous me condamnez? Et beaucoup de prédicateurs ont peur de ça, à cause de la psychologie, encore une fois. Je reviens là-dessus. C'est la psychologie qui est venu détruire ce message de la croix, en disant aux gens que, finalement, le fond de la psychologie, c'est quoi? C'est que l'homme est bon en lui-même. Mais la psychologie, c'est ça. Absolument. Les psychologues, c'est ça. C'est le message. Absolument. Tout le message de la psychologie, c'est ça. L'homme est bon en lui-même.
Et c'est la société qui le corrompt.
Et c'est la société qui le rend mauvais.
Ouais.
Donc, écoutez-moi bien. Voilà pourquoi on a ajouté la psychologie, pensant que, voilà, on pourrait résoudre des problèmes comme cela. Quelle erreur! Quelle erreur!
C'est vrai.
C'est là qu'il y a la grosse différence entre la psychologie et l'évangile. La psychologie dit que l'homme est bon. L'évangile dit que l'homme est pécheur. Le cœur de l'homme est
méchant
et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Est-ce qu'on entend ça dans la psychologie? Jamais! Jamais! Et nous en sommes là, mes amis. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises, il y a l'apostasie qui a commencé, et depuis longtemps. Et beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Ils ne s'en rendent même pas compte.
Bien sûr.
La situation est extrêmement grave. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Il l'a envoyé pour mourir sur la croix. Mais il est mort pour qui? Pour des pécheurs, pour des rebelles. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes tous pervertis, tous corrompus. Où est-ce que vous voyez ça chez les psychologues? C'est le contraire. S'il y a quelqu'un qui est mauvais, vous savez ce qu'ils vous disent? C'est ton grand-père qui est mauvais. Mais toi, tu es bon. C'est ta mère. C'est à cause de ta mère, de ton grand-père, que tu es dans cet état-là. Parce qu'on ne t'a pas aimé comme il le fallait. Parce qu'il t'a donné une fessée un jour, alors t'es traumatisé. Ça, c'est humain, tout cela. Et aujourd'hui, c'est la grande faiblesse, la grande faillite de l'Église, dans beaucoup d'Églises. La croix n'est plus prêchée, dans sa simplicité. Parce que la croix, c'est la puissance de Dieu, et c'est aussi la sagesse de Dieu. Vous pourrez lire ça dans 1 Corinthiens 1, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous lirez à la maison, lisez souvent ces passages. Beaucoup de gens, les chrétiens, même des prédicateurs, ne lisent même plus la parole de Dieu. Et ne se rendent même plus compte de la situation du cœur de l'homme. Comment faire l'œuvre de Dieu en prêchant le bon message? Si nous voulons des résultats apostoliques, il nous faut une prédication apostolique.
Absolument.
Vous êtes d'accord? C'est tout simple ce que je vous dis.
Bien sûr.
Et pourquoi s'il n'y a pas de résultat apostolique aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de prédication apostolique. Les gens sont toujours les mêmes. Il faut 20 ans, 30 ans pour que quelqu'un commence un petit peu à changer, et encore s'il change. Alors que selon la parole de Dieu, la conversion amène un changement radical dans la vie de quelqu'un. Si la personne fumait, c'est terminé du jour au lendemain.
Oui.
S'il mentait, c'est terminé du jour au lendemain. S'il avait une mauvaise langue, c'est terminé. S'il y avait le vol, l'impureté, terminé. Pourquoi? Parce que c'est un péché. C'est ce péché qui a crucifié le Seigneur. Si ce péché a crucifié le Seigneur, je dois l'abandonner. Si je continue, c'est que je recrucifie le Seigneur. Quand un chrétien continue de vivre dans le péché, il recrucifie le Seigneur. Et vous croyez que le Seigneur est d'accord avec ça? Jamais. Mes amis, c'est sérieux l'œuvre de Dieu. Comment travailler à l'œuvre de Dieu en prêchant le bon message? Avant d'apporter le remède, il faut d'abord apporter la maladie de la personne, révéler la maladie de la personne. Nous, aujourd'hui, on apporte le remède, mais sans dire que la personne est malade. Dieu vous aime, Dieu va vous bénir, il va vous aider. Mais ça, c'est le remède. Mais avant d'apporter le remède, il faut montrer que la personne est malade. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'apprécient pas le remède. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas malades. Et aujourd'hui, on apporte le remède avant de dire qu'ils sont malades. On leur dit que tout va très bien, Dieu va vous bénir, et comme s'ils n'étaient pas malades. Et voilà pourquoi notre évangile ne pénètre pas, parce que ce n'est pas le bon message. Et parfois même, c'est un autre évangile. Pour cela, il nous faut revenir à la lecture de la parole de Dieu. Nous laisser imprégner, quand vous lisez les actes des apôtres, quand vous lisez les évangiles, les épîtres, c'est tout à fait autre chose que ce que nous entendons aujourd'hui bien souvent. N'est-ce pas vrai? Comment faire l'œuvre de Dieu en prêchant le bon message? Christ est mort pour nos péchés. Et quand quelqu'un réalise que ce sont ses péchés qui ont crucifié le Seigneur, je vous assure, il s'en repent douloureusement, s'humilie devant Dieu. Elle abandonne ce péché pour se tourner vers celui qui est mort à sa place. Car sur la croix, c'est nous qui devions mourir. C'est vous, c'est moi. Nous étions mauvais à ce point-là que nous devions, nous, être condamnés, être séparés éternellement de Dieu. Mais dans son amour, Dieu a envoyé son Fils. Il a pris notre place, ta place, la mienne, afin que je sois pardonné et purifié. Mais c'est à cause de mon péché, de ton péché. Il nous faut le bon message. Il nous faut aller à la racine du mal, du problème. Réaliser que Jésus est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Si quelqu'un ne réalise pas qu'il est perdu en rébellion contre Dieu, Dieu ne peut sauver que celui qui est perdu. Quand quelqu'un commence à dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais je suis perdu, il n'y a plus. Ça y est, je suis condamné. Mais gloire à Dieu, c'est vrai. Il faut que la personne en arrive là, comme à la Pentecôte. Mais que faut-il qu'on fasse pour être sauvé? Aujourd'hui, on ne veut pas culpabiliser les gens. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire. Il veut que la personne dise, oh, mais ça y est, je suis perdu là. Je suis perdu. Mais oui, voilà. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit.
Bien sûr.
Mais il ne faut pas rester là, naturellement. Il ne faut pas rester là. Mais il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait ça.
Ah, oui.
Oui, c'est vrai. Tu es perdu. Tu as déshonoré Dieu. Tu as péché, mais Jésus l'a porté. Ton péché, ta culpabilité, c'est Jésus qui l'a porté. Christ est mort pour nos péchés. Il a porté tes péchés. Tu mérites la condamnation, mais il a été condamné à ta place. Oh, quelle bonne nouvelle. C'est moi qui méritais la condamnation. Et vous me dites que Jésus a été condamné à ma place? Mais c'est ça la bonne nouvelle. Pouvez-vous rester indifférent à l'égard d'une telle personne? Comment il est mort pour moi? Eh bien, s'il est mort à ma place, désormais, j'abandonne mon péché. Je m'en détourne et je me donne à celui qui s'est donné 100% pour moi, car il est mon sauveur. Amen.
Amen.
Gloire à toi, Seigneur.
J'avais lu une fois le témoignage d'une prostituée. Quand quelqu'un lui a parlé de l'évangile, en lui disant que Jésus l'avait aimé jusqu'à mourir à sa place. Elle qui était souillée par le péché et sous le jugement de Dieu, mais que Jésus a porté son jugement, est mort à sa place sur la croix et a souffert pour pardonner son péché. Elle a eu comme une lumière. Elle a dit, si Jésus est mort pour moi, une personne aussi souillée, aussi impure que moi, qui m'a aimé, mais à partir de maintenant, je lui donne ma vie. Je l'accepte comme mon sauveur. Car personne ne m'a aimé et ne m'aimera comme il m'a aimé. Cette prostituée, du jour, instantanément, a changé et est devenue une nouvelle personne.
Bien sûr.
Voilà comment les gens changent.
Amen.
Tandis qu'aujourd'hui, oh, doucement. Et on les laisse pendant 10 ans, 20 ans dans leur péché, sans les transformer vraiment, parce qu'on n'a pas le bon message. N'est-ce pas vrai? Soi-disant pour pas effaroucher les gens, les culpabiliser. Mais il faut justement, le Saint-Esprit, quand il vient là, il convaincra le monde de péché. Et vous savez que le verbe convaincre là, c'est un verbe très fort qui veut dire, il va montrer la personne son péché à un tel point que la personne va dire, c'est vrai, je suis perdu. Il n'y a plus d'échappatoire. Vous voyez, le Saint-Esprit convainc la personne d'une telle manière qu'il ne peut plus échapper. En disant, oui, c'est vrai. Comme David, finalement, la personne dit, je suis. Cet homme qui a péché. Nathan qui a dit à David, tu es cet homme-là. Et David a dit, oui, je suis cet homme-là. Et bien voilà, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Convaincre à un tel point que la personne dise, voilà, où je suis cette personne, j'ai péché. Mais toujours avec l'espoir de recevoir le pardon quand la personne accepte accepte le fait qu'elle est perdue. Il y a toujours un espoir avec le Seigneur. Mais le Saint-Esprit travaille à cela. Donc, il ne faut surtout pas se craindre de culpabiliser les gens. Il en faut, c'est ce qui leur manque. C'est pas ça qu'il faut craindre. C'est cela qu'il faut que les gens réalisent.
Qu'ils sont perdus.
Et une fois qu'ils sont perdus, on peut dire, voilà, que Jésus maintenant est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà, la personne est prête maintenant. Mais seulement à ce moment-là, elle est prête, pas avant.
Oui.
Mais tandis que maintenant on dit Jésus est votre sauveur, il vous aime et tout, mais la personne n'a jamais réalisé son état de perdition. Vous comprenez qu'on prêche un mauvais message? C'est ça le mauvais message. Il faut parler plus vite que la musique. On parle de pardon à une personne qui n'a jamais réalisé encore son péché. On dit, oh, Dieu veut te pardonner. Pas pardonner de quoi? Mais je n'ai pas péché, moi. Mais Dieu veut te pardonner. Mais c'est quoi? Voyez-vous ce langage? Dieu va te pardonner. Mais quoi? On n'a même pas montré que la personne avait péché et qu'il a déshonoré Dieu ou tout cela. Rien. Mais il va te pardonner. Sans rendre conscient la personne qu'elle a déshonoré Dieu, qu'elle a péché, qu'elle mérite le jugement divin et la condamnation divine. On ne mérite jamais le ciel, on ne mérite que l'enfer.
C'est vrai.
Personne ne mérite le ciel. Si nous n'avons qu'un mérite, c'est le mérite d'aller en enfer. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas accepter comme cela quelqu'un. Mais voyez-vous, en prêchant le bon message, on fait l'œuvre de Dieu comme cela, non pas en venant avec de la psychologie, avec un petit bâche un peu de partout, là, avec saupoudré d'un verset biblique, oui, c'est ça qui trompe avec. Oui. Alors on vous prend un verset, oui, mais la racine du mal, ça on n'en parle pas. Vous êtes gentil, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Tout le monde, oui, c'est bien, Dieu vous aime, voilà, c'est tout. Mais on ne parle pas que Dieu est un Dieu saint. Un saint, voilà, on ne comprend pas. Mais Dieu est saint aussi, ça veut dire qu'il est le péché. Ah bon? Moi, on m'a toujours dit qu'il est amour. Il est amour, c'est sûr, mais c'est un amour saint. C'est un amour saint, vous le savez, dans le ciel. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les anges, les archanges sont en train de chanter jour et nuit? Qu'est-ce qu'ils disent?
Saint.
Ah, je crois que c'était amour, amour, amour. C'est amour, amour,
c'est
amour.
Différent, ouais.
Ah, c'est voilà. Différent, oui, là, vous avez la bonne version. Mais il y en a qui n'ont pas la bonne version. C'est amour, amour, amour. Mm-hmm. Puisqu'ils n'ont que l'amour dans leur bouche. Mm-hmm. Vous voyez comme les choses sont faussées. Le ciel est le ciel et sera le ciel parce que Dieu est saint. C'est ça le ciel, c'est la sainteté de Dieu. Comment faire l'œuvre de Dieu? En ayant le bon message. Et c'est pourquoi quelqu'un n'est pas prêt vraiment, un prédicateur n'est pas prêt à prêcher l'évangile tant qu'il ne connaît pas la saine doctrine. C'est important ça.
Oui, très.
Il y en a qui prêchent et qui ne connaissent même pas la doctrine. Les doctrines essentielles de base, voilà. Ils ne les connaissent pas. Et ils racontent n'importe quoi. Et c'est ce que nous avons malheureusement dans beaucoup d'églises. Et ils ne supportent pas quand on leur prêche la vérité, n'est-ce pas vrai? Ils ne supportent plus cela. On va un peu plus loin. Mm-hmm. J'ai plusieurs points. Dans Néhémie 6, 16, il est parlé de l'œuvre de Dieu là aussi. Néhémie, Esdras, Néhémie. 6, 16. On peut lire à part le verset 15 déjà. 6, Néhémie, Esdras. C'est avant Job. Néhémie, c'est les chroniques, tout ça.
Avant les psaumes.
Avant les psaumes. Avant les psaumes.
Avant les psaumes et avant Job.
Avant Job. Esdras, Néhémie, Esther. Il est dit au verset 15, la muraille fut achevée le 25 du mois d'Elul.
D'Elul.
D'Elul. D'Elul ici. En 52 jours.
Ah oui.
Oui. Ça fait rien. Ah oui. 6.
6.
16.
16.
6. Ça c'est le 15 que j'ai lu. Oui. Et maintenant le 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, donc ils avaient fini la muraille, au bout de 52 jours, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que... Qu'est-ce que vous avez dans vos bibles, vous?
L'œuvre.
Ah, l'œuvre avait été accomplie par la volonté de notre
Dieu.
Que l'œuvre de Dieu
oui.
avait été accomplie par la volonté de notre Dieu. L'œuvre avait été accomplie, l'œuvre de Dieu. Donc ici, il y a une autre pensée. Ils reconnurent donc que c'était l'œuvre de Dieu. Comment? En étant persévérant. Tout à l'heure, on fait l'œuvre de Dieu en prêchant le bon message. Et maintenant, en étant persévérant. Parce qu'ils ont mis 52 jours à construire cette muraille. Et Tobija, Sambala et toute l'équipe là, qui étaient là pour se moquer d'eux. Voilà. Il y en a eu des moqueries. Mais Néhémie a été persévérant. Il ne s'est pas laissé arrêter. Alors comment? Et il est bien dit après donc qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu en 52 jours. Donc comment faisons-nous l'œuvre de Dieu en étant persévérant? Mes amis, c'est pas le tout de commencer quelque chose, il faut aller jusqu'au bout.
Oui.
Il y en a beaucoup qui commencent beaucoup de choses, mais qui n'arrivent jamais à finir. C'est pas le tout de bien commencer, il faut aussi bien finir. On commence bien, certains commencent très bien. Mais dès que les Tobija et les Sambala, les ennemis de Néhémie, sont là, allez, viens, on va discuter, voilà, oh là, attention, s'il y a un renard qui vient contre la muraille, elle va tomber par terre, on s'est moqué de lui, ils ont tout dit. Mais il y en a qui sont impressionnés par...
Non, moi, tu crois? Non, ils se sont moqués de moi. Oh non, j'arrête, à partir de maintenant, c'est fini. C'est fini, j'arrête de construire la muraille. Tu te rends compte, nos ennemis sont là? Non, t'as vu ce qu'ils entendent, ce qu'ils m'ont dit? Non, c'est pas juste.
Et il y en a beaucoup qui arrêtent de construire la muraille et ne finissent pas l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Rappelez-vous, comment travaille-t-on à l'œuvre de Dieu, comme Néhémie?
Oui.
En étant persévérant. Et la persévérance implique de l'opposition, des contradictions, la calomnie, toutes sortes de ruses. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, réellement, vous serez persécuté, calomnié, des Sambala et des Tobija. Le diable va vous envoyer. Et dire là, tu arrêtes un petit peu, tu te calmes.
Oui.
Pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu? Et puis beaucoup sont impressionnés par la crainte de l'homme. C'est, oh, tu te rends compte là, l'autre il veut pas que je fasse ça. Ah, oh, calme. Le diable utilisera toutes les ruses pour vous arrêter. Mais Néhémie, est-ce qu'il s'est arrêté?
Non.
Et il a fini le travail. N'est-ce pas merveilleux?
Amen.
Il a fini son travail. Et c'est comme cela que Dieu veut qu'on travaille. Dieu cherche des hommes et des femmes déterminés. Aller jusqu'au bout. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde
en arrière
n'est pas
digne de moi.
Propre, digne du royaume de Dieu. Si tu as mis la main à la charrue,
il faut aller jusqu'au bout.
Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Comment faire l'œuvre de Dieu en étant persévérant comme Néhémie? Cela veut dire que il y a des ennemis qui vont venir. Tu auras de l'opposition. Ne sois pas surpris. Il y en a qui sont surpris. Ah, tu te rends compte? Je comprends pas. Ah bon, tu comprends pas? T'as pas encore compris? Qu'il y aura de l'opposition? Ah, je comprends pas. C'est pas gentil. J'aurais pas cru ça de lui. Ou d'elle. Et voilà. Et on ne se rend pas compte que l'ennemi utilisera même les cordes les plus sensibles pour t'arrêter. Les personnes même qui peuvent avoir une... auxquelles tu peux être même le plus attaché. Ces personnes-là peuvent se dresser sur ton chemin et dire « Non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire ?»
Voilà.
Tu vois, y a un choix à faire entre cette personne que tu aimes ou le Seigneur de gloire. Le Dieu puissant, le Maître qui te demande d'obéir. Qui vas-tu obéir? Il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Mais choisis toujours le chemin étroit. Écoutez-moi bien. Quand toutes ces histoires de Toronto ont commencé il y a quelques années, n'est-ce pas? À peu près une dizaine d'années. Nous étions, nous allions dans beaucoup d'églises en France et en Suisse. Et le Seigneur bénissait, on avait beaucoup de bonnes choses, de grandes choses.
Oui.
Mais à un moment donné, quand cette histoire de Toronto est arrivée, avec ce rire hystérique et des gens qui se roulaient par terre, avec les gens qui parlaient comme des animaux, et qu'ils disaient que c'était de Saint-Esprit,
sous l'onction du Saint-Esprit.
Alors vous pensez bien que le renouveau, voilà,
le vin nouveau,
c'est tout ça.
Oui,
voilà.
Oui.
Alors là, voilà. Et alors justement, alors à ce moment-là, il a fallu qu'on prenne et que devant Dieu, je prenne une décision. J'ai réfléchi, j'ai vu que tout le monde suivait ce chemin-là et je me suis dit, Sam, maintenant, tu as un choix à faire. Ou tu les suis et tu auras les portes des églises ouvertes. Parce qu'on avait beaucoup de portes ouvertes.
Oui, puis on était amis avec certaines personnes.
Oui, et puis on était connus depuis des années.
Connus.
On a fait des campagnes en Suisse où des centaines de personnes sont venues à nos réunions.
On a prié pour des milliers de gens.
On était donc très connus.
Ah oui.
Et quand je dis que je devais faire un choix, c'est que ça me coûtait beaucoup.
Ah oui.
Ça nous coûtait,
ah oui, moi aussi.
Mais moi, personnellement, donc je parle personnellement.
Bien sûr, tous les deux en tout cas.
Je me suis dit, là il y a quelque chose. Là, tu ne peux pas continuer comme ça. Ou tu les suis, que les portes sont ouvertes, tu continues de prêcher et tu ne dis rien. Ou alors, il y a le chemin étroit, tu suis le Seigneur et sa parole, parce que tu ne vois rien de tout ça dans la parole de Dieu, tu suis le Seigneur, et que tu sois rejeté par tout ce monde. Et je savais qu'en acceptant de suivre ce chemin, toutes les portes se fermeraient.
Ah oui, et ça n'a pas manqué.
Et que tous se dresseraient contre. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Arrivé. Ah, oui.
Et c'est ce choix-là que j'ai accepté.
Mais la parole de Dieu m'a maintenu.
Voilà, bien sûr. Ah, oui. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un choix à faire.
Ah oui, qui a un prix à payer.
Un prix à payer. Et ça, c'est
et nous, le Seigneur nous, vous en a tant demandé que... de payer le prix. Là.
Et nous, en tant que prédicateurs, mais vous en tant que chrétien.
Ah,
attention.
Oui, c'est
pas
pareil.
Seulement que nous, en tant que prédicateurs, mais vous en tant que
chrétien. Vous avez un choix à faire aussi.
Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire.
Vous avez un choix à faire.
Et là, c'est important. Mais ne vous occupez pas de votre avenir.
Non,
si vous marchez avec le Seigneur, le Seigneur marchera avec vous. Et combien nous ont dit, et ont pensé même de ces prédicateurs, que s'ils nous fermaient la porte, il y a même quelqu'un, un prédicateur en France cette fois, qui nous a dit, puisqu'on ne marchait pas avec leur renouveau, il a dit, leur ministère compassion, ce sera terminé dans peu de temps.
Il a dit, ils vont se casser la figure.
Et qu'il n'y aura plus rien du tout en peu de temps. Et vous savez ce qui s'est passé?
Oui, c'est ça.
C'est pas nous qui nous sommes cassés la figure.
C'est lui qui s'est cassé la figure.
Ce pasteur.
Il est divorcé aujourd'hui.
Et maintenant, il a quitté sa femme.
Et le ministère.
Et le ministère.
Il est parti avec quelqu'un d'autre.
Et il voulait nous faire la leçon.
Ah oui? C'est lui qui a dit qu'ils vont se casser la figure.
Oui. Non, mais on verra après le...
Oui, tout à l'heure.
Le vignard, c'est John Wimber. Oui. Juste un petit mot.
Oui.
John Wimber. Qui a influencé beaucoup de charismatiques
beaucoup
à ce moment. John Wimber, l'Américain. Puisqu'il y a la question, je peux justement répondre encore, ça peut aider.
Tout à l'heure.
Justement.
Ah, oui,
ça, tout. Voilà, parce que tout était. C'est avec John Wimber que ça a commencé. Quoi,
ouais. Que tout a commencé.
Voilà.
Oui, ça vient de là aussi.
Voilà.
Ah, oui.
Et John Wimber, justement.
Il est mort aujourd'hui. Hein, donc.
Et une des doctrines de John Wimber. Voilà, c'est, une question qui mérite une réponse.
Oui, c'est
parce qu'elle. Elle répondra à beaucoup aussi de nos questions. Mm-hmm. C'est, en effet, ce John Wimber, c'était un prédicateur américain qui, juste encore un peu avant Toronto, avait expérimenté un peu des expériences mystiques et très occultes dans son ministère. À un moment donné, il cherchait tellement que la puissance de Dieu se manifeste qu'il demandait au Seigneur que la puissance de Dieu se manifeste dans son ministère par des miracles, tout ceci, tout cela. Mais apparemment, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et un jour, ça c'était juste un peu avant Toronto, parce que Toronto a copié sur lui, ceux de Toronto.
Ils ont été inspirés
par lui, parce que
par
lui, il a déjà vécu ça avant lui.
Oui, c'est ça, voilà. Mais,
et celui qui a amené Toronto, là, le prédicateur américain qui était à Toronto, c'était qui?
C'était qui? Non, Kilpatrick, c'était Pensacola. C'était Howard Brown.
Non, Howard Brown, non, c'était l'Américain.
C'était Sud-Africain.
Non, il y en avait encore un autre. Non, encore un autre.
Stephen Hill.
Non, encore avant c'était.
Ah,
ça,
avant.
C'était Pensacola, tout ça.
Bon, oui, enfin,
ça
tout ça, oui.
C'est pas grave. Alors là, donc, vous savez ce qu'il a fait à ce moment-là? Puisqu'il priait que le Seigneur ne guérissait pas, il a commencé à invoquer le Saint-Esprit. La Bible nous dit de ne pas invoquer le Saint-Esprit. On ne prie pas le Saint-Esprit.
Non.
Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus.
Jésus.
Vous ne voyez jamais les apôtres prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit est Dieu, c'est vrai. Mais notre ministère n'est pas de le prier. Au contraire, son ministère est de nous faire prier Jésus. Mais pas d'orienter les prières vers lui, vous voyez la ruse.
Voilà.
Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit nous fera prier Jésus.
Jésus.
Il est dit que le Saint-Esprit me glorifiera. Vous comprenez cela? Donc plus quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, plus cette personne priera le Seigneur. Et non pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais lui, il a eu cette idée, cette révélation-là.
Soi-disant
une révélation.
Révélation.
Et vous savez ce qui s'est passé? Au moment où il a fait ça, il a vraiment ouvert la porte à l'ennemi. À partir de ce moment-là, pouf, les gens ont commencé à tomber par terre, à commencer à rire, à commencer à rouler par terre, à faire n'importe quoi.
Plus de contrôle.
Eh oui, plus de contrôle. Mais à partir du moment où il a invoqué le Saint-Esprit, vous rendez-vous
compte?
Et c'est là qu'il a vu, tiens, là il y a quelque chose qui peut se reproduire. Et beaucoup de prédicateurs se sont inspirés après de ça.
C'est sûr.
Et un des prédicateurs qui a été inspiré par ça, c'est lui qui est allé à Toronto et qui a amené ça. Mais ça avait commencé déjà en privé avec John Wimber. Écoutez-moi bien, encore une autre pensée avec John Wimber. Pour vous dire combien il a influencé des prédicateurs, comme au Canada et en France, un peu de partout. Attention, c'est dans le monde entier. Et il y en a encore ici, au Canada, qui ne se sont pas excusés pour cela, qui n'ont pas demandé pardon au Seigneur.
Qui n'ont
pas reconnu que c'était une erreur.
Leur erreur.
Et il a dit une pensée qui a conduit des multitudes de prédicateurs et par voie de conséquence des chrétiens dans l'erreur. Dans ses séminaires pour les pasteurs, vous savez ce qu'il disait ? En anglais, c'est, il disait, « God is greater than his word. »
Word.
Oh, word, word,
word,
word.
Dieu est plus grand que sa parole.
Que sa parole, word.
Dieu
est plus grand que sa parole.
Ah non, c'est raffiné. Non, non, c'est raffiné.
Non, écoutez, voilà l'expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, voilà.
Que Dieu est plus grand que sa parole. Comprenez? Il disait ça maintenant. Pourquoi? Parce qu'il commençait à vivre des choses qui n'étaient pas
écrites. Ah,
qui n'étaient pas écrites. Que les apôtres n'ont pas pratiquées. Alors il fallait qu'il trouve une justification pour ça. Parce qu'il savait que tout le monde allait le critiquer.
Et voilà.
Et tout le monde allait lui dire, là, s'il te plaît, c'est bien beau ce que tu nous amènes là. C'est bien beau ce que tu nous amènes là. Mais les apôtres n'ont jamais fait ça. Et le Seigneur non plus. Et c'est pas écrit. Alors lui, il a soi-disant eu une révélation, comme pour dire, mais attention, Dieu n'est pas lié par sa parole.
À ce qu'il dit.
À ce qu'il dit, forcément. Dieu, que je sache, est
plus grand
que sa parole. Donc, ça veut dire que tous les miracles de Dieu ne sont pas
écrits dedans.
Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas écrit, c'est quand même de Dieu.
Ah oui.
Vous comprenez? C'est quand même de Dieu, même si ce n'est pas écrit.
Oui.
Alors que la Bible nous dit exactement le contraire, que tout ce qui n'est pas conforme à sa parole doit être rejeté. Parce qu'à ce moment-là, si on accepte cette pensée-là, tout le monde peut venir avec sa petite révélation. Puisque ce n'est pas écrit, du moment où Dieu m'a montré que ça, et le Seigneur m'a montré que ce que j'ai vécu là, ça vient de Dieu, même si ce n'est pas écrit. Alors n'importe, c'est la porte ouverte justement à l'hérésie, aux fausses doctrines, à l'occultisme, à tout ce qui est mauvais dans l'Église. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est John Wimber qui a amené ça. Et beaucoup de prédicateurs ont mordu à cet hameçon et ont accepté ce mensonge.
Oui, mais ils ont ajouté aussi, ils ont pris le passage qu'ils ont tordu, que Dieu faisait, que les œuvres, les grandes œuvres, Dieu a fait de plus grandes œuvres qui ne sont pas écrites dans ce livre. Ils ont pris ce passage-là.
Alors justement, là il y a une explication.
Et voilà.
C'est ça l'histoire. Il en a fait tellement plus que...
Voilà. Et qu'on en ferait des plus grandes.
Et qu'il en... Oui, voilà.
Dans Jean et que nous.
On en ferait des plus grandes. Voilà.
Alors écoutez bien, justement, là encore, voyez-vous, quand on n'étudie pas le texte tel qu'il est, tel qu'il est écrit, il est dit qu'on ferait de plus grandes œuvres que le Seigneur. Pardon. Mais, pas de plus grands miracles. Il est question d'œuvres ici.
C'est ça, l'histoire.
Donc, il n'est pas question de miracles.
Eh non.
Dites-moi les apôtres après. Est-ce qu'ils ont fait tous les miracles de Jésus?
Non.
Il y a certains, ils n'ont pas fait.
Ils n'ont pas
fait. Et pourquoi Jésus a-t-il dit que vous en ferez de plus grand? On le voit par les apôtres qu'ils n'ont pas égalé le Seigneur dans ce domaine-là. Donc c'est pas ce que là que ça voulait dire.
Et
maintenant on veut nous faire croire qu'on en ferait de plus grand. Est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils font les plus grands miracles que Jésus? Rien du tout. Tout ce qu'on voit n'est rien dans la Bible.
Ils n'ont même pas fait.
Alors à quoi correspondent ces œuvres?
Ils n'ont pas marché sur l'eau.
Non.
À quoi correspondent ces œuvres?
Oui.
Ah oui, à quoi correspondent ces œuvres alors? Eh bien, les œuvres que Jésus n'a pas faites, c'est l'œuvre de la conversion. Jésus, il était lui l'agneau. Il est mort pour les péchés, pour que les gens soient sauvés. Mais ce n'est pas lui qui allait après dans le monde pour amener les gens à la conversion. C'était l'œuvre de l'Église. Et en cela, la plus grande œuvre aux yeux de Dieu, c'est la conversion. C'est la nouvelle naissance, chose que Jésus n'a pas apportée. Il l'a enseigné, mais quelques-uns sont nés de nouveau. Mais le plus grand travail dans ce domaine-là, c'est
après le départ de Jésus.
Après sa résurrection et son ascension.
Bien sûr.
Donc dans ce sens-là, on a fait des œuvres plus grandes.
Oui.
Mais on n'a pas fait de miracles plus grands.
Des œuvres plus grandes.
Des œuvres, ça veut dire que...
Pas des miracles.
L'Église a amené plus d'âmes au Seigneur que le Seigneur lui-même.
Évidemment.
Mais parce que c'était pas là son ministère.
Parce que oui. Le père n'était pas peuplé, qu'il se met la tête.
Voilà. Donc vous comprenez.
Oui, puis toutes les années aussi, il a travaillé 3 ans, le Seigneur.
Oui, et puis c'était pas là son ministère.
À Milan.
Et il était venu pour l'agneau, pour donner sa vie, pour qu'on soit sauvés.
Voilà.
Bon, après, il y a eu quelques petites prédications par-ci, par-là. Oui, mais les plus grandes œuvres, c'est l'Église.
C'est ça.
C'est l'Église.
Mais bien sûr.
C'est dans ce sens-là qu'on a fait de plus grandes œuvres. C'est dans ce sens-là qu'il a fait de plus grandes œuvres. Mais ce n'est pas de plus grands miracles. Non. Le texte grec ne parle pas de plus grands miracles, mais de plus grandes œuvres. Vous voyez comment on trompe les gens.
Voilà, oui, c'est ça. Hein.
Et c'est pourquoi voilà, on en est maintenant. Et alors quand il se passe quelque chose de bizarre, de mystique, de n'importe quoi, on dit que c'est les plus grands miracles que Jésus n'a pas fait.
Oh.
Ou ce sont des miracles qui ne sont pas inscrits dans la Bible. Non, non, mes amis. C'est pas comme ça que ça marche. Alors voyez-vous, donc à partir du moment où on s'éloigne des Écritures et on accepte des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, c'est la porte ouverte à la séduction.
Eh oui.
Pour en revenir à la psychologie encore une fois, les psychologues, quand ils vous disent des choses comme ça, ça ne vient pas de Dieu. La séduction est aussi grande avec un psychologue qu'avec un faux prophète qui vient avec des choses comme ça. Aussi grande.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce que certains voient la séduction avec le faux prophète, qui fait des faux miracles, mais il ne voit pas la séduction avec le psychologue qui vient avec sa petite ruse à lui, que tout le monde est gentil, que c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est de la faute des autres. Ça, c'est aussi dangereux, sinon plus dangereux. Donc voyez-vous comme nous devons faire attention. Comment faire l'œuvre de Dieu? En apportant le bon message. Vous avez retenu? Comment faire l'œuvre de Dieu avec Néhémie? En étant
persévérant.
Vous aurez des Sambala et des Tobija sur votre chemin. Vous en aurez, nous on en a eu, mais chacun de vous.
Attention. Ah oui.
Mais la tragédie, c'est que du temps de Néhémie, il y avait des chefs, je lisais encore, on peut lire même un peu plus loin, les chefs d'Israël et faisaient des compromis avec les Tobija et les Sambala. Parce qu'il y a eu des mariages entre eux. Et c'est pourquoi les chefs se taisaient. Et se dressaient même contre Néhémie. Vous lirez tout le passage après.
Oui.
Il est question de tout ça. Alors Néhémie avait même les chefs d'Israël qui étaient contre lui. Pourquoi? Parce que certains de ses chefs, leurs enfants et tout ça, étaient mariés avec des enfants de Tobija et de Sambala. Voyez-vous, là, jusqu'où était la séduction, le compromis? Et c'était complètement lié. Et voilà que Néhémie ne s'occupe pas de tout ça. Il nous en faut des Néhémies aujourd'hui encore, vous ne croyez pas?
Oh oui.
Et personne ne l'a arrêté. Et il y a une grande crainte au milieu des ennemis. Et il a persévéré. Et parce que Dieu était avec lui, et parce qu'il était décidé à persévérer jusqu'au bout. Mes amis, si vous êtes décidés à persévérer jusqu'au bout, le Seigneur vous tiendra, vous soutiendra.
Amen, amen,
vous
amen.
Serez parfois seul, comme Néhémie, rejeté. Vous serez, ne l'oubliez pas, mais ne perdez pas courage, s'il vous plaît. Le bon berger sera toujours près de sa brebis.
Amen.
Si vous n'abandonnez pas le bon berger vous tiendra, vous soutiendra. Ne l'oubliez pas, mais qu'à cause des Tobija et des Sambala, ne reniez pas votre maître. Parce que si vous reniez sa parole, c'est renier Jésus. Si vous reniez sa parole quand elle dit oui, et vous allez avec d'autres qui disent non, vous reniez. En reniant le Seigneur, sa parole, vous reniez le Seigneur.
Oui.
Parce que les deux sont liés, intimement liés. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma
parole.
C'est lié. Il y en a qui disent, nous on aime le Seigneur, mais sa parole, on fait un peu ce qu'on veut avec sa parole. Ça ne marche pas, ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On aime, mais ils aiment le Seigneur. C'est pas suffisant. La preuve qu'on aime le Seigneur, c'est quoi? C'est qu'on garde sa parole. Jean 14, 15, vous connaissez? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est pas celui qui dit « je t'aime, Jésus, je t'aime ». C'est bien de dire
«
Jésus ». Bon, c'est bien qu'on lui dise « je t'aime ». Mais le Seigneur nous dit « il faut que tu me le prouves un petit peu, là ». C'est pourquoi à un moment donné, Jésus a dit « pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Vous savez, le Seigneur n'est pas impressionné par nos paroles même d'amour à son égard. Ces paroles l'impressionnent quand, dans notre cœur, il y a la décision ferme d'obéir à sa parole. Là, alors notre louange lui est agréable. Mais quand dans notre cœur on lui dit « Je t'aime, Seigneur », mais au fond de nous-mêmes, on n'est pas prêt à lui obéir. Oh, quand si quelque chose nous coûte, on n'est pas prêt à le faire. À cause de Paul, de Pierre, de je ne sais qui, de n'importe qui, on n'obéit pas. Alors Dieu nous dit « Ça ne marche pas, ta prière, là. Ta louange, c'est pas comme ça que ça marche. » La prière et la louange est acceptée. Notre amour est accepté dans la mesure où cet amour est confirmé, éprouvé par une obéissance à la parole de Dieu. Les seules personnes qui aiment le Seigneur, ce sont ceux qui aiment vraiment le Seigneur, ce sont ceux qui obéissent à la sainte doctrine, à sa parole. Amen. Tout le reste, c'est de la religiosité. C'est de la sentimentalité. Tout le reste, la preuve finale, suprême, que vous l'aimez, que je l'aime, c'est d'obéir à sa parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui
garde
ma parole. Oui, les choses sont simples avec le Seigneur, mais il faut être courageux. Comment est-ce qu'on fait l'œuvre de Dieu? En étant persévérant, comme Néhémie. N'est-ce pas merveilleux? Alors, encore un autre passage. Maintenant, c'est le prophète Jérémie qui va nous aider. Jérémie 48, 10. Jérémie, oui, 48, 10, d'accord. Bon, mais je vais aller assez vite à cause de l'enregistrement pour que vous puissiez tout savoir. Oui, qu'on puisse tout avoir. Jérémie 48, 10. Après, je vous donnerai seulement les références après pour qu'on puisse tout mettre dans l'enregistrement. 48, 10, il y a un passage très important ici. Qu'est-ce qu'il est dit? Maudit soit celui qui fait avec négligence le quoi?
L'œuvre de Dieu.
L'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel. Mm-hmm. Écoutez-moi bien là.
Maudit.
Soit celui,
c'est fort, maudit. Oh.
Qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de Dieu.
Ah, c'est fort.
48, 10. Jérémie 48, 10. Mm-hmm. Alors, comment faire l'œuvre de Dieu, et mes voilà. amis? Eh bien, en ne tolérant aucune négligence. Mm-hmm. En refusant cette tentation de négliger l'œuvre de Dieu. Mm-hmm. Donc, il faut faire l'œuvre de Dieu avec sérieux. Mm-hmm. Avec sérieux. La négligence veut dire, oh, ben, on fait quand ça nous arrange, on travaille pour le Seigneur un peu, mm-hmm. selon notre bonne humeur, selon la tête des gens aussi. Mm-hmm. Alors, voilà.
Nos envies,
ou alors les désirs des uns et des autres. Ah, vous avez envie de quoi? Puis on donne selon les besoins, oui. selon les envies. C'est ça, travailler avec négligence. Mm-hmm. C'est un peu un travail superficiel. Et Jésus dit, Dieu nous dit, attention, c'est pas comme ça qu'on travaille. Ne faites pas mon œuvre comme ça, c'est pas comme ça que ça marche.
Pas comme ça.
C'est pas comme ça. Vous pouvez travailler toute votre vie et perdre votre temps.
C'est ça.
En travaillant comme ça. Uh-huh. Il faut être sérieux.
Ah oui, eh oui.
Si nous sommes sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec nous.
Avec nous, oui.
Et après, on l'est étonné. Pourquoi Dieu n'est pas sérieux avec moi?
Eh ben voilà.
Peut-être parce que tu n'es pas sérieux avec
lui. Et voilà.
Pourquoi est-ce que Dieu me néglige? Parce que peut-être que toi, tu le négliges. Et que tu négliges sa parole, tu comprends pas, je suis négligé par le Seigneur, il ne s'occupe pas de moi. Mm-hmm. Ne serait-ce pas parce que toi, tu ne t'occupes pas de lui, oui. et que tu le négliges.
C'est ça.
Allons un peu plus loin. 4. Mm-hmm. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Il est dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mm-hmm. Acte 13, 2. Oui, il est question d'œuvre encore ici. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Et alors, comment faire l'œuvre de Dieu ici? Eh bien, eux, si vous lisez juste le verset au-dessus, il est dit qu'ils étaient devant le Seigneur, ils servaient le Seigneur, et le verbe servir dans le grec, c'est ils adoraient le Seigneur. Pendant qu'ils étaient dans l'adoration du Seigneur, le Saint-Esprit leur parla et leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Donc, comment faire l'œuvre de Dieu en recherchant la face du Seigneur dans l'adoration.
Eh oui, c'est ce
comme
qu'on disait
Paul
tout à l'heure.
Et Silas, en recherchant la face de Dieu dans l'adoration.
Ah,
et quand on dit adoration, mes amis, quand on adore vraiment, alors, il y a le don de soi-même. Quand on a fini d'adorer, on se donne au Seigneur.
Voilà.
Dire qu'on a adoré le Seigneur et qu'après, on ne se donne pas au Seigneur, ce n'est pas de la vraie adoration.
Non.
Dans la vraie adoration, on se donne et on finit par dire, « Me voici, Seigneur, je veux maintenant t'obéir. » La vraie adoration nous conduit à l'obéissance.
Oui.
Quelqu'un qui adore vraiment, adorer veut dire baiser la main de celui que vous... Baiser, ça veut dire dans un une attitude de soumission. Me voici, Seigneur, je t'aime, mais je suis à ton service. Je suis à ton service. Que veux-tu que je fasse? Dans la vraie adoration, ça doit finir comme ça. Vous vous levez et vous dites maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Que veux-tu que je fasse? Que puis-je faire pour toi?
Que puis-je faire? Je me voici. Me voici, envoie-moi, comme dans Isaïe. Me voici, envoie-moi. Mm-hmm. Avant cela, il y a eu le trône, la révélation. Et après, me voici, envoie-moi. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, on a une telle révélation de Dieu, un tel amour pour Dieu, une telle connaissance du Seigneur, une telle révélation de sa personne, que tu dis, eh bien, c'est ces personnes-là que je vais envoyer.
Amen.
C'est de telles personnes qui aiment le Seigneur que je vais envoyer pour annoncer sa parole. Non pas des gens qui ne se tiennent pas devant lui et qui ne l'aiment pas de tout leur cœur. Cela, je n'en veux pas.
Non.
Mais il veut des gens qui l'aiment, qui l'adorent, qui sont transformés, qui se tiennent dans sa présence.
Amen.
Et il les enverra à cela, parce que c'est des gens qui aiment le Seigneur, qui n'auront pas peur de lui, qui n'auront qu'une crainte, la crainte de Dieu, et qui n'ont plus la crainte des hommes. Quand vous vous tenez dans la présence de Dieu, c'est la crainte de Dieu que vous avez, et la crainte des hommes disparaît.
Amen.
Et c'est pour cela que Dieu dit, c'est lui que je vais envoyer, parce qu'il n'a plus peur des hommes. Tandis qu'aujourd'hui, quand vous entendez certains chrétiens ou certains pasteurs, vous voyez qu'ils ont peur de l'un ou de l'autre. Ils ont peur l'un de l'autre.
Bien même.
Ils ont peur de dire quoi que ce soit parce que ce qu'ils disent, ils ont peur d'attirer le courroux de l'un ou de l'autre. Mm-hmm. Mais on ne voit pas la crainte de Dieu.
Du tout.
Et on ne fait pas l'œuvre de Dieu comme ça, mes amis. Amen.
Amen.
Je vais un peu vite maintenant.
Amen.
1 Corinthiens 15. Oui. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Je donne juste cette référence. Il est dit que, 1 Corinthiens 15, 58, il est dit qu'il faut être ferme et inébranlable en travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alors, comment faire l'œuvre du Seigneur? En étant ferme et inébranlable. Voilà. Mm-hmm. En étant ferme et inébranlable. Soyez ferme et inébranlable. Que personne ne vous ébranle. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Si vous êtes avec le Seigneur, assis dans sa parole, sur sa parole, restez ferme. Vous serez inébranlable. Alléluia. Le Seigneur vous tiendra et vous soutiendra. Voilà comment on fait l'œuvre de Dieu. Ensuite, sixièmement, faites en sorte, il est dit, dans 1 Corinthiens 16, 10 et 11, Timothée, il est dit, arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Timothée, maintenant, il prend l'exemple de Timothée. Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Et le passage, le contexte dit qu'il soit sans crainte au milieu de vous. Ne le méprisez pas, il est dit. Mm-hmm. Paul dit, ne le méprisez pas à cause de sa jeunesse. Mm-hmm. Ne le méprisez pas. Donc, comment servir le Seigneur? Comment faire l'œuvre de Dieu? En s'encourageant mutuellement.
Amen.
En étant plein de respect entre nous. Mm-hmm. De respect. Amen. C'est une chose tragique quand au milieu de nous, quand on travaille entre nous, à peine sorti, on commence à se critiquer l'un l'autre et qu'on commence à dire des mauvaises choses l'un de l'autre. Ça, Dieu ne le veut pas.
Ou des mauvaises paroles l'un à l'autre.
Ça, c'est... Il faut absolument que tout cela disparaisse de notre bouche.
Ah oui.
Il faut cet esprit de respect. Mm-hmm. Paul disait bien, respectez-le. Il est là, il est jeune. Donc, il voulait qu'il y ait un esprit d'encouragement au milieu d'eux, non pas de mépris. Mm-hmm. Veillons, si vous voulez que Dieu même vous utilise en groupe, il faudra entre vous un grand esprit
de respect,
d'encouragement mutuel, de loyauté.
Amen, amen.
Et non pas dire n'importe quoi.
Voilà.
Se laisser aller les uns contre l'autre. Il faut faire attention à cela.
Oui.
Parce que c'est vous, c'est pas les autres qui détruisent l'œuvre du Seigneur dans votre vie. C'est vous-même, votre propre langue.
Oui.
Vous pouvez vous-même détruire l'œuvre du Seigneur par votre propre langue. Faites bien attention.
Oui, c'est vrai.
Faites bien attention. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est pourquoi il faut qu'on fasse l'œuvre du Seigneur en purifiant notre langue, en étant encouragé, s'encourageant mutuellement. Et pour terminer, je termine 1 Timothée 6. Ah oui, c'est ça. 1 Timothée 1, 3 et 4. Ne pas enseigner d'autres doctrines qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre du Seigneur. Plutôt que l'œuvre du Seigneur. 1 Timothée 1, versets 3 et 4. Paul dit qu'il exhortait Timothée à rester à Éphèse pour que les gens là-bas n'enseignent pas d'autres doctrines qui ne favorisent pas l'œuvre du Seigneur. Vous voyez l'œuvre encore une fois là. Et quelle est la pensée ici? Eh bien, comment faire l'œuvre du Seigneur en s'opposant aux fausses doctrines. Voilà, en fait, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, reprends ceux qui prêchent des fausses doctrines, car ceux qui font cela ne favorisent pas l'œuvre du Seigneur, au contraire, la détruisent. Oui, donc comment favoriser l'œuvre du Seigneur? En s'opposant aux fausses doctrines.
Amen.
Et c'est quand on s'oppose aux fausses doctrines, on fait l'œuvre de Dieu.
Voilà.
Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne s'opposent pas aux fausses doctrines. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Parce qu'on vous serez rejeté. Celui qui prêche la vérité, il sera toujours rejeté, calomnié. On vous racontera n'importe quoi.
Oh, oui.
Mais ne vous en faites pas. Jésus a dit, on vous calomniera. Mais réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans le ciel. Alléluia.
Amen.
Et plus on vous persécutera, plus on vous dira du mal, le Seigneur vous dit, et plus ta récompense sera grande dans le ciel. C'est dans Matthieu 5, je crois, sauf erreur. N'est-ce pas merveilleux?
Amen.
Comment faire l'œuvre de Dieu? Eh bien, les voilà. Vous relirez ces passages encore, vous les méditerez. Mais on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence, ça veut dire un peu de n'importe comment. Voilà, avec l'un, avec l'autre, et faire... Non, il faut être sérieux. Entre nous, déjà, être unis, un même cœur, une même âme, une même pensée.
Amen.
Et non pas sortir n'importe quoi qui peut faire de la peine à l'un et à l'autre et briser cette unité spirituelle que Dieu veut pour travailler pour le Seigneur. Tandis que le diable, lui, il est là. Il veut tout faire par des paroles méchantes, par des paroles mauvaises. Et il veut s'infiltrer et pour vous diviser et vous empêcher de faire l'œuvre de Dieu.
Amen.
Amen. Soyez une même âme, une même pensée, un même cœur.
Amen.
Voilà
Amen.
Ce que Dieu attend de nous, de chacun de nous et de vous aussi.
Amen.
Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Amen.
Amen. J'ai quand même à cœur de vous dire cette parole prophétique que le Seigneur m'a donnée avant de savoir, comme celle que j'ai donnée au départ, celle-ci aussi, sans savoir ce que Samuel allait dire, parce qu'au début, ça ne prenait pas cette tournure-là. Donc, le Seigneur confirme ce message prophétiquement, parce qu'on a eu nous a donné la même pensée, ça, c'est quand même fort, hein, quand Dieu donne à deux êtres humains la même pensée.
Sans se consulter.
C'est ça qui est extraordinaire. Toujours, le Seigneur fait ça. Il me donne des paroles qui confirment le message de Samuel ou vice-versa. Voici ce que le Seigneur vous dit. Concernant ce que vous entendez et voyez autour de vous, réalisez que tout ce qui actuellement est censé venir de moi ou s'adresser à moi, ne vient pas de moi, vous dit le Seigneur. Tout ce que vous entendez et voyez, qui est censé venir de moi ou s'adresser à moi, ne vient pas de moi. Je vous ai laissé ma parole,
Amen.
Et c'est elle seule qui doit être votre lumière,
Amen.
Non pas l'enseignement des hommes. C'est elle seule qui vous conduira dans toute la vérité et qui vous affranchira des mauvais enseignements de l'adversaire et de ses séductions. Toute ma parole est inspirée pour vous corriger de ces subtilités qu'il utilise pour vous induire en erreur. Mon peuple, mes enfants, nous dit le Seigneur ce matin, dans ma parole, médite davantage ma parole, demeure dans ma parole, et elle sera pour toi une protection efficace en ces temps difficiles de la fin, temps troublés et d'insécurité. Consacre-toi du temps à cet effet. C'est vital pour toi afin d'être à même de mettre en lumière toutes les embuscades de l'ennemi. C'est ainsi seulement que tu seras en mesure de mener une vie chrétienne victorieuse et forte et de glorifier ton Seigneur et de me servir efficacement. Amen.